Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Christophe Jubien pour vous accueillir dans votre magazine culturel Par ici les sorties. Nous allons aujourd'hui au Centre international du vitrail de Chartres où une nouvelle exposition s'offre à vos regards admiratifs, une exposition sur le vitrail contemporain en France. À l'occasion du vernissage, nous avons rencontré trois artistes qui vont, dans la prochaine demi-heure, vous conter les secrets de leur art. Bon voyage à tous. Pour commencer ce tour d'horizon, quelqu'un qu'on ne peut qu'interviewer ici à Chartres, c'est Kim Hyun-jung qui, une fois de plus, nous émerveille avec des verres, des vitraux absolument extraordinaires. Ça, c'est un format que j'ai devant moi. Évidemment, les auditeurs ne peuvent pas le voir, qui est extrêmement impressionnant. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de l'histoire de ce vitrail, précisément?
Oui, je vous dirais, à Anvers, et j'aurai mon musée qui va s'ouvrir au mois de mai l'année prochaine. Et là, je fais les vitraux parce que ce musée est très intéressant pour moi. C'était un ancien tribunal qui va devenir mon musée parce qu'ils sont déménagés avec un bâtiment nouveau. Donc j'ai fait deux exemplaires parce que je suis très content. Encore plus, dans deux ans, j'aurai mon exposition de mes vitraux ici, à CIB.
On peut remonter un petit peu l'histoire. Comment vous êtes devenu artiste, vous, personnellement?
Quand j'étais en Corée, j'ai fait l'école des beaux-arts. Oui. Et puis, devenir prêtre catholique, c'était très ultérieurement. Oui. Et puis, ce qui m'impressionne beaucoup ici, c'est quand je suis venu la première fois en France, ma première visite, c'était Chartres. De là, j'ai reçu la lumière, de la beauté de couleur. Et ça correspondait à mon baptême. Enfant de lumière. Avant, j'étais très pessimiste, oui. Parce que là, il y a la guerre, l'occupation japonaise, etc., n'est-ce pas? J'aurais pu devenir largement gilet jaune, tout à fait autrement. C'est assez triste, il faut espérer.
Les questions que se pose l'artiste dans son travail, est-ce que ce sont ces questions qui vous ont emmené à la foi, finalement? Comment la foi a-t-elle surgi dans votre vie d'artiste?
Inséparable, comme le corps et l'âme, c'est toujours un ensemble. Alors, chaque moment, je reste dans un état de prière.
Ce grand travail, ce grand vitrail que j'ai devant moi, comment il est né et qu'est-ce qu'il exprime?
Oui, je dis ce qui est important pour moi, la libération. L'histoire de salut, c'est libération. Malgré on parle de la liberté, personne n'est libre comme il faut. Pour cela, il faut libérer tout ce qui nous empêche pour voir la lumière.
Il y a une grande énergie qui parcourt ce travail. Il y a aussi une grande libération d'énergie dans votre travail.
Je l'espère, oui, parce qu'une fois, dans le train, quelqu'un m'a demandé si j'étais chef de karaté. J'étais flatté. Alors je dis non, je ne suis pas chef de karaté, mais je suis chasseur de démons. Voilà, mon geste, c'est chasser le démon. Élévation qui est importante.
Mais est-ce que l'art, dans votre apprentissage, est-ce que l'art d'Extrême-Orient, moi, quand même, j'entrevois tout le passé aussi culturel et artistique de l'Orient, de la peinture chinoise dans votre travail, est-ce qu'il est aussi présent?
Et vous avez bien saisi, et on ne peut pas se tromper. C'est moi qui ai exprimé dedans. C'est ma vie, ma spiritualité. Pour ça, je dis, si c'est très beau, c'est grâce à Dieu. Si c'était moche, c'est à cause de moi.
Vous priez avant de commencer un travail?
Je dirais oui, parce que avant de commencer, je deviens comme un grand sportif. Non pas l'art martial, mais comme je ne sais pas peindre, le Seigneur m'aide. Je ne suis qu'un pauvre instrument.
Tout de même, vous avez fait les beaux-arts, donc est-ce que vous avez appris à désapprendre? Vous avez tout désappris?
Oui, mais la création artistique, c'est un mystère. Alors, si je calcule à l'avance, je perds. Pour ça, comme Matisse a la même expérience, quand je commence, déjà, je sais. Quand vous faites boxing, n'est-ce pas? Si vous calculez, ça sera entre matchs de robots. Mais on sait où il faut attaquer.
Vous parlez de Matisse, il y a une phrase qui, à mon avis, pourrait s'appliquer à vous. Matisse disait, ce que nous recherchons dans l'art, c'est le climat de notre première communion. Est-ce que c'est...
Ah oui, c'est surtout Picasso a dit, quand Matisse a commencé à faire, Picasso était très mécontent, bien qu'il avait le passé chrétien. Alors, quand il a vu la chapelle de Vence, Matisse a fait, il a dit, Matisse, pour faire telle chapelle, il devait avaler le rayon de soleil. Et après, il dit, si nous revenons à la première communion, rien à disputer. Et il a dit, quand il avait regardé confessionnal qui changeait selon la lumière, il dit, un type comme moi, il fallait me confesser tous les jours. C'est une très belle histoire.
Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler la date à peu près de l'ouverture de votre musée et le lieu?
C'est, le musée, c'est en Auvergne, en Béarn. C'est la ville de Chapelet.
Merci beaucoup. Face-moi un autre grand artiste invité aujourd'hui avec des œuvres assez monumentales, c'est Jean-Paul Agosti. Et là, il s'agit d'un travail qui a été inséré dans l'église Saint-Gildard Langues, et dans le Val d'Oise. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce vitrail là, par exemple?
Alors là, on a une technique très particulière, c'est qu'on utilise du verre soufflé à la bouche, mais avec deux couleurs. Donc il y a une couleur dominante et on vient sabler cette couleur dominante pour donner le graphisme. Et ça nous permet de supprimer le plomb de l'image. D'accord. Voilà, on a un plomb en périphérie, des plaques, on a des plaques qui font à peu près 40 par 20 à peu près. Et donc ça nous permet d'avoir une légèreté de très très proche des maquettes. Et c'est ça qui m'a plu avec cette technique. On a mis au point ça avec Simon Marc à Reims quand j'ai fait les vitraux de Saint-Joseph dans la chapelle Saint-Joseph à Reims en 2014. Voilà.
Quel est le propos de ce vitrail finalement ?
Alors, bon, c'est très symbolique ce que je fais. C'est, en fait, dans cette église, il y avait un grand Christ qui surmontait l'autel. Et j'étais assez impressionné par ce Christ. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose qui soit un peu cosmique autour. Donc, j'ai donné un côté cosmique à cette œuvre-là. Et quand on m'a demandé le titre des œuvres, j'ai pensé à Transfiguration du Christ. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez cosmique. Il y a une particularité, mais là c'est assez difficile de voir ça ici, mais il y a un vortex, c'est-à-dire à partir du point central, l'image est en vortex, en hélicoïde, voilà, avec des inversions de graphisme. En radio, c'est assez compliqué d'expliquer.
C'est très difficile d'expliquer, bien sûr.
Disons qu'il y a un côté très cosmique, symboliquement, avec ce vortex, pour magnifier un peu ce... Alors, c'est une église du XIIIe siècle. On pourrait dire que c'est vraiment le début du gothique, quoi. Et j'ai fait tout le programme. Alors il y avait des insertions, il y avait donc deux vitraux qui sont classés, monuments historiques, et j'ai dû les insérer dans mon travail. Et ça, je pense que c'est assez réussi de mon point de vue d'artiste. Voilà.
C'est pas évident justement de marier des choses qui sont déjà figuratives mais de cette époque-là et votre travail qui est résolument contemporain et abstrait lui.
Oui, c'est abstrait mais c'est quand même relié à la symbolique de l'arbre végétal, il y a une symbolique végétale donc ça va très bien avec le gothique parce qu'on a des éléments de décor qui sont très arborescents donc ça va très bien avec. C'est ça qui a plu pour ces vitraux-là. Et alors, pour la petite histoire, comme l'église est classée monument historique, l'architecte voudrait me faire classer mes vitraux monument historique. Hein. De mon vivant, je vais être muséifié. Si on y arrive, je ne sais pas. Il paraît qu'il n'y a que Le Corbusier qui a réussi à se faire muséifier de son vivant. Donc je serai le deuxième. Voilà. Voilà l'anecdote historique.
Est-ce que le dialogue de l'art et de la foi va de soi? Est-ce que la langue de l'artiste est la langue de langue d'une église quoi,
et, ça... Bien sûr, non, mais j'ai absolument respecté toute la symbolique chrétienne. Vous avez au nord les couleurs nocturnes au nord, les couleurs solaires au sud. Il y a toute une symbolique des couleurs. J'ai respecté. J'ai créé tout un texte qui explique chaque vitrail un par un. Voilà.
Les vitrails, je suppose que c'est une partie de votre travail.
Ah oui, c'est une partie de mon travail. Oui.
Parlez-nous de l'autre partie.
L'autre partie. Bah écoutez, je suis artiste peintre hein, à la base. Et j'expose dans des galeries à Paris, à l'étranger, en Asie, aux États-Unis. Et j'ai tout un réseau de galeries qui s'occupent de mes œuvres. Et puis j'ai aussi des commandes en architecture, des commandes pour des très grandes œuvres, des œuvres monumentales. J'ai réalisé plusieurs œuvres monumentales, comme le plafond du théâtre de Lunéville. Du hall d'accueil de l'univers, c'est un plafond qui fait 130 mètres carrés, par exemple. Et puis pour d'autres entreprises aussi, j'ai fait des œuvres de cette dimension-là.
Voilà. Est-ce que vous estimez que les contraintes du vitrail vous ont appris quelque chose ?
Écoutez, les contraintes du vitrail, pour moi, c'est absolument... C'est pas une contrainte, ça magnifie mes œuvres. Ça magnifie j'ai un plaisir fou à voir la lumière traverser ma peinture. Et pour moi, c'est encore supérieur à la peinture de Chevalet. Hein. Le vitrail, c'est quand même un art... Pour moi, c'est le summum. Pour moi, pour un artiste plasticien, c'est à mon avis le summum. Parce qu'il y a la lumière traverse et il y a quelque chose de tellement spirituel là-dedans que pour moi, je suis absolument comblé de faire ça. Je suis prêt à tout pour avoir des vitraux à faire.
C'est aussi l'assurance de toucher un public très large quand même. Les vitrails, ça, on n'en parle pas assez souvent. Mais...
Exactement, oui, parce que ces édifices sont ouverts au public et j'ai des retours magnifiques sur mon travail pour les vitraux de Reims. Là, on vient juste de les réceptionner pour Longuès. On a des retours extraordinaires déjà. Et alors, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que le maire de Longuès a été le tuteur d'un très grand artiste éclairagiste qui s'appelle Yann Kersalé. Et Yann Kersalé, c'est lui qui éclaire la Tour Eiffel, qui a éclairé le port de Marseille, qui est connu dans le monde entier comme artiste éclairagiste. Et quand il a vu mon projet, il va nous faire un programme, et il nous offre le programme et il nous offre le matériel d'éclairage intérieur et extérieur. Donc ça va être extraordinaire.
C'est où ?
C'est à près de Pontoise, à 12 km de Pontoise.
Donc c'est pas très loin d'ici.
C'est pas très loin, c'est à peut-être 60 km d'ici, 70 km peut-être.
En attendant, il faut absolument venir admirer ce travail au Centre international du vitrail. C'est une exposition qui est vraiment magnifique, qui donne un aperçu de ce qui se fait aujourd'hui et qui est vraiment divers et prodigieux. Merci beaucoup.
C'était les adorables scènes d'enfants de Schumann. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel. C'est par ici Les Sorties, votre magazine culturel qui vous est présenté par votre serviteur Christophe Jubien. Je vous emmène aujourd'hui à Chartres au Centre international du vitrail pour découvrir la nouvelle exposition Le vitrail contemporain en France. Après Jean-Paul Agosti et Kim N. Young, place à un troisième artiste.
À mes côtés, l'artiste Malel. Moi, je suis tombé en amour devant votre vitrail qui fait partie de toute une série sur l'enfant, en fait, et qu'on peut admirer à la chapelle Notre-Dame-du-Bois. C'est à Noirmoutier, en plus, c'est un lieu qui est magnifique. Comment est né ce travail et cette association avec la chapelle Notre-Dame-du-Bois ?
Le prêtre du lieu, le père Grégoire, souhaitait pour cette chapelle qui est ouverte quasiment uniquement en été et qui regroupe toutes les familles avec toutes les générations représentées qui viennent pendant 2 mois, 3 mois pendant l'été, il souhaitait animer cette chapelle avec un thème fondé qui rappelle la joie et qui rappelle que Dieu donne sa joie et sa paix. Et donc, étant donné que c'était un lieu de vacances familiales, il a souhaité mettre en avant tous les thèmes où l'enfant est mis en avant par le Christ dans les évangiles. Donc on a pris 8 thèmes où l'enfant est appelé.
Alors, le vitrail, c'est l'art de la lumière aussi. Alors vraiment, celui-ci, c'est vraiment la lumière, l'enfant qui est devant la lumière et qui se laisse regarder, c'est ça?
Voilà. Alors, dans ce vitrail, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il a été créé par l'atelier de maître verrier Peters à Paderborn en Allemagne, dans cette collaboration. Alors, vous remarquerez que d'abord, il n'a pas de plomb, parce que maintenant, on peut tout à fait créer d'une seule pièce. C'est ça ce qui est extraordinaire. D'une seule pièce, on peut mélanger toutes sortes de pigments sans avoir à recourir à un compartimentage avec des plombs. Il y a dans ce vitrail également le parti pris du figuratif, c'est-à-dire que nous cherchons à donner avec le prêtre de l'endroit et le maître verrier à oser la figuration, oser l'incarnation, c'est-à-dire représenter l'être humain et ne pas vouloir quelque chose qui ait un véritable contenu, un véritable sens et non pas simplement des couleurs qui ne disent rien. Donc là on a trouvé le thème de l'enfant et c'est le passage de l'évangile où le Christ prend un enfant devant lui et il dit et il l'embrassa et il le montre à la foule qui est représentée en haut du vitrail par des silhouettes et où le Christ dit il faudra que vous soyez comme cet enfant pour rentrer dans le royaume des cieux, donc avec l'humilité et la confiance que l'enfant a dans ses parents ou dans les adultes. Donc on a mis un enfant entouré d'un rond symbolisant le soleil, symbolisant l'hostie également, donc l'Eucharistie symbolisant l'unité du monde autour de lui, dont il est le centre pour justement rentrer dans le royaume de Dieu. Vous remarquerez qu'il y a toutes sortes de couleurs qui se mélangent et donc l'atelier Peters, qui est extraordinaire, eh bien, sur une même pièce de verre, arrive à mélanger en projetant des pigments, en peignant, en projetant, en les soufflant, arrive à faire se mélanger toutes sortes de couleurs différentes.
Donc la technique, c'est le soufflage. Comment ça se fait techniquement? Il y a plusieurs techniques, il y a l'impression, et là, celle-ci.
Non, là, c'est pas du tout une impression. On prend une grande plaque de verre et on saupoudre, si vous voulez, ou on volatilise, ou on peint. Il y a plusieurs, on peut le faire avec un tampon, avec un pinceau, avec un vaporisateur, et on prend toutes sortes de pigments et on les envoie on les applique sur le verre, et après, on cuit tout ça dans un four à 700 degrés. On le fait en plusieurs cuissons parce qu'on ne peut pas appliquer toutes les couleurs, tous les pigments en même temps. Donc le morceau de verre, le vitrail, passe 2 ou 3 ou 4 fois dans le four.
Il y a un maître verrier, il y a aussi un maître cuiseur, c'est-à-dire que ça doit être une partie du travail capitale, quoi. On ne peut pas louper une cuisson.
Non, on ne peut pas louper la cuisson. Alors heureusement, maintenant, les fours sont très réglementés par ordinateur et donc on arrive à la température souhaitée assez facilement. Mais il y a toujours un imprévu. Et parfois, quand on superpose des couleurs, cuisson après cuisson, eh bien, on peut avoir des surprises, avoir ce qu'on appelle des couleurs qui se crament et qui deviennent noires ou qui éclatent ou qui se répandent. Donc il y a toujours une part d'imprévu dans les cuissons pour que tous les pigments, toutes les petites particules de couleurs, eh bien, se coulent et se restent de façon permanente dans le verre.
C'est pour ça que vous êtes allé spécifiquement en Allemagne voir cet atelier. C'est quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler ?
Alors cet atelier, l'atelier Peter, c'est un atelier assez extraordinaire qui avait ici d'ailleurs une exposition l'année dernière à Chartres pendant un an et demi, deux ans, où il présentait 300 panneaux avec 250 artistes différents. Et cet atelier a des commandes dans le monde entier, en Australie, en Argentine, aux États-Unis, en Corée. Et cet atelier est extraordinaire par là. D'abord, ils sont 80-90 personnes à travailler dans cet atelier. Et ils ne couvrent pas simplement des églises, ils réalisent des grandes baies vitrées colorées, à la fois pour des aéroports, pour des banques, pour des sièges sociaux, pour des supermarchés, pour des églises, pour des bibliothèques, pour toutes sortes de choses. Parce que dans le monde entier, il n'y a pas que ce qu'on appelle des vitraux pour des baies d'églises, mais il y a parfois, même l'atelier Peters a réalisé par exemple des grandes baies colorées pour des métros, pour des corridors dans des supermarchés ou le long d'escalators ou dans des aéroports. Donc cet atelier allemand est capable de créer dans des univers complètement très variés. Et donc avec à chaque fois un problème technique très important et qui permet d'offrir des techniques comme par exemple ici la possibilité de mélanger toutes ces couleurs en même temps en n'ayant pas peur qu'elles se détruisent l'une l'autre, et où les couleurs, le violet, le rose, le jaune, le rouge, arrivent à se mélanger sans que dans le four, eh bien, elles se détruisent.
Votre travail sur le verre, c'est anecdotique dans votre vie d'artiste ou au contraire, non, c'est une forme d'accomplissement de...
Alors je fais également des tapisseries avec l'atelier A3 à Paris depuis une vingtaine d'années. Je fais des portraits, des paysages et ce que l'on peut faire avec le verre relaie ce que je peux faire sur une toile avec de la peinture à l'huile ou avec toutes sortes de laine dans des tapisseries. Donc je fais aussi des paysages, toutes sortes de choses différentes. Et là vous avez donc vu ce vitrail pour Noirmoutier, mais il y a dehors les deux arbres qui ont été créés également par l'atelier Peters et qui sont deux œuvres monumentales créées pour l'extérieur sur une grosse plaque de verre et qui résistent au gel, à la neige, à la lune, au soleil. Ça, c'est une œuvre originale sur un thème également qui signifie quelque chose et qui est la joie dans la création, l'arbre qui est synonyme de vie. Et donc, je tenais à avoir une création très joyeuse. Voilà, un magazine avait fait un article sur ce que je faisais il y a plusieurs années en m'intitulant « Peintre de la joie ». Je crois que notre monde contemporain a besoin de joie et de paix et qu'il est largement temps de propager des bonnes nouvelles et de propager beaucoup de joie autour de nous.
Elle est novatrice, cette œuvre, vous me l'avez dit, dans le monde du vitrail.
Oui, on devrait même enlever le mot vitrail. On devrait même enlever le mot vitrail parce que c'est plutôt des créations sur du verre coloré, donc qui dépassent bien évidemment ce qu'on peut faire uniquement dans des églises, puisque ça peut être fait pour sur des ronds-points, sur des dehors devant des hôpitaux, sur des places devant des mairies. Et donc cette œuvre est originale parce qu'elle est capable de rester dehors, qu'elle est monumentale, et donc il faut un savoir-faire technique. On n'avait pas il y a 50 ans pour pouvoir réaliser sur verre des plaques de verre très épaisses, mais pouvoir cuire dans la masse en grande taille voilà, toutes sortes de pigments, toutes sortes de couleurs. Et ce que j'ai voulu, c'est choisir le thème de l'arbre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une pièce de verre rectangulaire, mais la découpe se fait le long de toutes les feuilles, voilà, toutes les branches, toutes les feuilles. Donc en plus, l'atelier est capable de donner une forme complètement inventée qui n'est pas du tout que rectangulaire. Donc ça, c'est tout nouveau. Il faut arriver également à ce que ça tienne, avoir une armature, avoir un socle. Et on souhaite également que, par exemple, ces grands arbres de joie puissent être installés dans des jardins où le socle sera enfoui dans l'herbe et donc qu'il y ait un arbre de toutes les couleurs mélangé à la nature.
C'est la question que j'allais vous poser. Après l'exposition, il va où? Il n'a pas encore trouvé son...
Non, il y a ces deux grands arbres. Et on n'a pas encore trouvé leur localisation. S'il y a des collectionneurs ou des municipalités ou des sociétés qui veulent, d'abord, on souhaite en faire d'autres. À chaque fois, des variantes. J'ai fait beaucoup de maquettes avec l'atelier Peters et nous sommes prêts à réaliser à la fois de manière unique ou en série des arbres, je vous dis, pour aussi bien des jardins que des lieux publics.
Merci beaucoup. Allez à la chapelle Notre-Dame-du-Bois en attendant d'admirer ces arbres dans je ne sais quelle forêt urbaine. C'est donc à Noirmoutier, la chapelle Notre-Dame-du-Bois, et vous admirez cet enfant et d'autres vitraux qui sont alors là, effectivement, qui donnent la joie au cœur. Merci beaucoup, Malèle.
Merci beaucoup.
Et en attendant d'aller à Noirmoutier, allez donc au Centre international du vitrail de Chartres. C'est rue du Cardinal Pie, c'est très facilement trouvable puisque c'est derrière la cathédrale, côté portail nord. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition de Par ici les sorties.
Sweet pretty things on bed now, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Bell Star, she hands down her wits. To Jezebel and Nun, she violently knits. A bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade. Screaming, she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The king of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves and sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps. With a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm
got me in trouble with the tombstone blues. Geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after.